Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger ? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote !
France Inter.
Oui, bien sûr.
C'est bon.
Comme agrume, vous connaissez sûrement le citron de Menton.
Il est réputé dans le monde entier. Il y a un climat spécial qui permet au citron de se développer tranquillement.
Mais il en existe en réalité plein d'autres.
Là, c'est une explosion en bouche. C'est plein de jus. Tu continues à saliver. Ça me fait travailler les papilles. Et ça, j'adore des agrumes parce que quand on a un agrume qui est long en bouche, c'est qu'on a vraiment le fruit qui est naturel, qui n'a pas eu d'arrosage innécessaire. On commence à l'éplucher, on a tous les huiles essentielles. Déjà, on ferme les yeux et on est transporté.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le plateau dont va déguster. Il cultive de nombreuses variétés d'agrumes dans son jardin en terrasse, avec vue sur la mer, et il les cuisine même au Mur Azur. Son restaurant 3 étoiles Michelin, de Menton, on vient de l'entendre. Dans l'accroche de cette émission, c'est le chef argentin mondialement connu, Mauro Colagreco. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour à tous. Nous avons passé pas mal de temps ensemble, cher Mauro, ces deux derniers jours, au premier salon international de l'agrume qui se déroulait hier, jusqu'à hier, dans la capitale française des agrumes, réputée pour son citron, réputée aussi, on l'a dit, pour le Mur Azur, votre restaurant gastronomique qui est vraiment connu dans le monde entier. Nous étions à Menton. Et vous nous avez rejoints ce matin dans les studios de France Bleu Azur à Nice, où nous faisons escale pour notre émission en direct, entièrement consacrée aux agrumes de Méditerranée. On remercie d'ailleurs chaleureusement nos confrères de France Bleu pour leur accueil. Merci aussi à la communauté de la Riviera française, à Zineb Mekarsi, à Marianne Sipan, pour nous avoir accueillis entre Menton et Nice pour ce premier salon international de l'agrume. Les agrumes, c'est aussi sa passion et son objet d'étude. Franck Kurk, bonjour.
Bonjour à toutes et à tous.
Vous êtes l'un des co-organisateurs de ce Festival international de l'agrume qui fut une vraie réussite. Hein.
Oui, vraiment, on a eu de très très bons retours.
Et vous êtes l'un des plus grands spécialistes de la génétique des agrumes. Vous étudiez ces fruits de très près depuis l'INRAE, Syrah de San Giuliano, l'une des stations de recherche les plus pointues au monde située sur la plaine orientale de la Corse, jusqu'à l'Université de Montpellier où vous êtes en poste. Vous avez, parmi vos très nombreuses publications d'ailleurs, collaboré à une encyclopédie scientifique, Les agrumes du nord de la Méditerranée, édition Alain Piazzolla. Elles sont du voyage, nos chroniqueuses Elvira Masson et Justine Knapp. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour à toutes
bonjour.
Et tous.
Elvira.
On va voir le citron comme une inépuisable source d'inspiration artistique.
Ah ouais, c'est absolument passionnant.
Oui,
grosse effervescence autour du citron en ce moment. Et Justine.
Aujourd'hui, éloge de la peau au bord de l'eau sur la Riviera.
Eh bien voilà, envoyez-nous vos questions, vos recettes et vos souvenirs gourmands autour des agrumes sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com ou sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter. Retrouvez nos émissions en ligne avec tout leur contenu, adresses, chroniques, recettes, infos pratiques, podcasts sur franceinter.fr à la page On va déguster.
France Inter, on va déguster avec François-Régis Gaudry.
Menton, avec sa traditionnelle fête du citron, vit les plus belles journées de sa saison. Et sous un soleil qui fait oublier l'hiver, les bandes joyeuses des jeunes mentonnaises ont repris le chemin des vergers pour cueillir ces fameux fruits, parures des rivages méditerranéens. Du soleil, des fruits, Menton.
Conférences, cooking show, table ronde, dédicaces de livres, nous avons vécu des moments très vitaminés et très intenses pendant deux jours au Palais de l'Europe à Menton où se tenait la toute première édition du Salon International de l'Agrume avec une très belle fréquentation. Il y avait beaucoup de monde, des Mentonnais, mais des Niçois et puis des gens qui venaient de partout du Grand Sud-Est. Et nous avons aussi goûté des choses tout à fait étonnantes. Alors chers amis, je vous ai rapporté deux produits qu'on peut vraiment qualifier de produits coup de cœur que je vous propose de goûter à l'aveugle. Ce sont deux produits transformés à base d'agrumes exclusivement cultivés sur la Côte d'Azur. On commence avec un premier produit qui circule dans nos verres. Est-ce que vous avez une petite idée? Tiens, il y a Maroc qui lève la main.
Je lève la main et c'est une hydrolat
de fleurs de Bigaradé.
Et ben voilà, il a plié le match.
Ah ouais.
Est-ce que, enfin, il a plié le match, vous êtes d'accord ou pas?
Bah, je pensais que c'était une autre fleur d'oranger,
c'est
moi.
C'est la même chose.
Je me serais... Oui,
c'est la même
mais
chose.
C'est ça, c'est le bigaradier oranger, bien sûr.
Alors, fleur d'oranger,
orange amère.
Ouais, c'est ça.
C'est de la fleur du bigaradier. Ouais. Mais c'est l'autre fleur d'oranger qu'on utilise en pâtisserie. Et en fait, c'est, paradoxalement, c'est le produit secondaire de la production d'huile essentielle de Neroli, qui est la fleur du bigaradier, l'huile essentielle de la fleur du bigaradier, qui est utilisée dans pratiquement tous les parfums. C'est vraiment un produit extraordinaire qu'on utilise dans les grands parfums. Et ce qu'on récupère, après avoir récupéré cette huile, on a cette eau parfumée à l'eau de fleur
et
d'oranger.
Et vous êtes bien sûr que c'est vraiment ça?
Alors, ça a ce goût-là, en tous les cas.
Okay.
C'est
eau
pas ça.
De fleur d'oranger. Bah, alors écoutez, je vous propose de vérifier avec un agrumiculteur que vous connaissez peut-être, Jean-Noël Falcou. Agrumiculteur à Valoris, à une petite trentaine de kilomètres de Nice, dans les Alpes-Maritimes. Alors, cet élixir mystère.
C'est de l'eau de fleur d'oranger produite à Valoris Golfe-Juan, donc sur la Côte d'Azur, qui est vraiment la capitale historique du bigaradier, l'oranger amer sur lequel on cueille la fleur d'oranger. Et donc, mon collègue Adrien Strutinski et moi, on cultive les arbres, on cueille la fleur à la main, on la distille nous-mêmes le jour même, on la laisse maturer, on l'embouteille et on essaye de faire en sorte qu'elle soit la meilleure possible, parce qu'on travaille bien sûr en agriculture biologique, en non traité, avec des pratiques qu'on espère le plus respectueuses pour que cette eau de fleurs, elle se transmette de génération en génération. Alors on pense souvent à la pâtisserie, hein, à juste titre, mais ça va très bien également dans les laitages, dans les boissons, café chaud, café libanais, dans les boissons fraîches. Certains chefs la cuisinent en salé aussi, avec des recettes assez surprenantes, et quand ils savent maîtriser, c'est vraiment excellentissime. Ça va avec tout, la fleur d'oranger.
L'une des toutes dernières eaux de fleurs d'oranger produites en France. C'est un produit rarissime, vous le confirmez, Franck
Kurk. Oui, dans le commerce, malheureusement. Dans le commerce, on trouve beaucoup plus souvent de l'eau de fleur d'oranger, mais qui est du parfum de synthèse, en fait.
Oui.
Et vraiment trouver une eau de fleur d'oranger naturelle, et ben, on en trouve encore. Produite dans le sud de la France, comme on l'a entendu, hein, Valoris et Golfe-Juan, et notamment avec la coopérative Nérolium, et vous avez la possibilité de trouver ce produit-là extraordinaire pour tout ce qui a été cité.
Hein. Ouais, oui, la délicatesse d'arôme, c'est incomparable. Hein.
Incomparable, et c'est en même temps très puissant, parce que ça embaume vraiment tous les studios de France Bleu Azur, Jean-Noël Falcou avec Adrien Strutinski, qui sont des agrumiculteurs indépendants sur les hauteurs de Valoris. Est-ce que l'eau de fleur d'oranger, cher Mauro Colagreco, a sa place dans votre répertoire culinaire?
Bien sûr, bien sûr. Bon, suivant l'eau d'oranger, on l'utilise dans les desserts. Mais j'aime bien aussi apporter un peu dans les salés, dans le monde salé.
Intéressant.
Mmh. Oui, avec des crustacés, par exemple, ça peut marcher magnifiquement bien.
Est-ce que vous vous souvenez, Elvira, d'un plat magnifique que nous avions goûté chez un chef marseillais 3 étoiles, Alexandre Mazia?
Bien sûr, un plat à la fleur d'oranger. C'était une semoule. Une semoule à la fleur d'oranger.
Avec un jus d'étrille.
Exactement, mais oui, donc le mariage, effectivement, oranger-mer marche très bien. Ouais.
Et surtout, ça ne m'étonne pas, parce qu'au Maroc, on utilise beaucoup l'eau des fleurs d'oranger, donc avec la semoule, effectivement.
L'eau de fleurs d'oranger, c'est vraiment la quintessence de la Méditerranée en termes de parfum, quand même, Franck Kurk.
Ah oui, c'est vraiment le bigaradier en fleurs dans les rues des villes du sud, soit du nord de la Méditerranée, soit du sud de l'Europe, de Nice jusqu'à Valence en Espagne, en passant par la Tunisie, le Maroc, l'Égypte. C'est vraiment
et Menton,
tout à fait.
Et
en ce moment,
il est chauvin, Maroc.
Mais les bigaradiers sont en fleurs en ce moment. Si vous baladez dans la rue à Menton,
ça sent
la fleur d'oranger partout.
C'est incroyable, en effet. Deuxième produit glané sur l'un des stands du Salon international de l'agrume de Menton. Attention, les choses se compliquent toujours à l'aveugle.
Alors là, je vais laisser un peu plus
d'avantage.
Qui se jette à l'eau?
Moi, je me demande si... Alors déjà, c'est Justine. Une texture un petit peu de gelée, marmelade. C'est un petit peu granuleux sous la dent, très agréable. Au niveau des agrumes utilisés, je me demande s'il n'y a pas un mélange d'agrumes. Parce que...
La réponse est non. Oh. C'est un seul agrume.
Ah non, alors là, je n'y risque pas.
Ah, c'est compliqué, moi, je trouve.
C'est une confiture, mais c'est une confiture qui a un équilibre sucre-acide qui est extraordinaire. Oui. Il y a une acidité là.
Vous aimez déjà?
Il y a une légère amertume aussi.
Oui, c'est pour ça que je me lance, tant pis, je me tromperai peut-être, mais si c'est une confiture de citron, elle est excellente.
Ou peut-être un petit peu de yuzu. Il y a du yuzu, moi, je dirais, oui. Moi, je dirais yuzu.
C'est ça?
Oui. Alors, pour le yuzu.
Alors, moi, j'essaierai plutôt sur les cédras.
Ah oui, aussi.
Intéressant.
Si c'est le cédrat, c'est très acide, donc c'est pas du cédrat de Corse, mais ça pourrait être du cédrat de Florence. Alors.
Le yuzu, non? Franck?
Moi, je retrouve pas le yuzu.
Moi, un petit peu quand même.
Vous voulez savoir ce que c'est ou pas?
Oui.
Résultat des jeux avec Adrien Ganac.
C'est une confiture de yuzu. Elle est faite avec nos yuzu. Nous, on est agrumiculteurs, effectivement, avec mon père, en biologique à Menton. Et on bénéficie d'une IGP sur le citron, et c'est bien notre fruit phare, c'est notre ADN, et c'est finalement depuis 30 ans un petit peu la passion de mon père. Et moi, je l'ai rejoint il y a 6 ans avec cette volonté de diversifier un petit peu. Et on s'est diversifié sur des confitures, des liqueurs, des apéritifs, on fait même de la déshydratation et des citrons confits. Enfin, une multitude finalement d'agrumes qu'on cherche à transformer et à sublimer. J'espère que cette confiture vous a séduite.
Comment on pourrait définir le goût et le parfum du yuzu ?
C'est une vaste question, c'est un de mes agrumes préférés et c'est aussi celui que les Japonais adorent, notamment parce que c'est un fruit qui est très délicat. Il n'est pas agressif, mais il a du caractère et finalement il y a une légère amertume, mais elle est très agréable, elle va donner une petite longueur en bouche. Il y a une pointe d'acidité, il y a une rondeur et il y a une longueur qui vraiment est très florale, très appétissante. C'est un fruit qui donne envie de revenir.
La confiture de yuzu, un super produit de la maison Ganac. Adrien et Laurent Ganac, le yuzu est devenu en deux décennies, une espèce de magic citrus. C'est incroyable. Oui, le dessin de cet agrume japonais.
C'est vrai que c'est un agrume très aromatique que j'utilise aussi dans ma cuisine. Ça m'étonne parce qu'il y a cette profondeur qui est très, très, très typique du yuzu. En plus, dans la région mentonnaise, on a des montagnes, ce qui permet s'adapter bien le yuzu dans notre région. Et après, le yuzu, on peut l'utiliser tant dans le jus, qui est un jus très, très acide, ou le zeste, qui est très, très parfumé. Il y a les huiles essentielles qui sont vraiment uniques.
Vous savez que son nom est d'ailleurs entré dans le Petit Larousse en 2016. Et cet agrume est effectivement à des origines japonaises. Il y aurait dans sa généalogie une mandarine ?
Et alors c'est un peu c'est plus compliqué.
C'est toujours compliqué avec les agrumes.
Le yuzu nous a un peu embêté pour trouver ses origines, mais on y est arrivé finalement. C'est un mélange justement. Il y a une mandarine spécifique qui est pas n'importe quelle mandarine, et avec des papeda qui est un autre papeda. En fait, grâce au yuzu, il y a un ancêtre supplémentaire par rapport aux variétés ancestrales des agrumes. Et bien là, on est obligé d'en rajouter un nouveau par rapport au yuzu. Et c'est vrai que je l'ai pas reconnu parce que j'ai pas l'habitude de le consommer en confiture.
Il se reconnaît beaucoup plus frais. Ouais, et en plus, pour tout vous dire, Adrien Ganac m'a dit que la transformation en confiture, changeait totalement, en fait, le profil organoleptique et aromatique des agrumes. Hein.
Mais c'est l'intérêt de faire une confiture. Mais je répète ce que j'ai dit, ça reste une excellente confiture.
Eh ouais, très, très bonne confiture. C'est Laurent Thomas qui réalise l'émission en direct de France Bleu Azur avec Alix Vernotte. Fabrice Rivaud est du voyage pour la préparation et la programmation de l'émission. Alexandre Laurent pour la coordination technique. On se retrouve pour un grand voyage méditerranéen autour des agrumes juste après. Temata, ça va te plaire, Mauro. C'est la chanteuse colombiano-américaine Kali Uchis, choisie par Djoubaka. Il paraît même que c'est la nouvelle Dalida. Bon appétit sur France Inter.
Por fin.
À la seule évocation des agrumes de Méditerranée, les cartes postales défilent. Les orangeraies d'Espagne, les vergers de clémentiniers sur la Costa Verde en Corse, les citronniers sur les estanques de Menton qui dévalent vers la Grande Bleue, ou encore le quinoto de Savone, le citron de San Remo en Ligurie, pas très loin d'ici, juste de l'autre côté de la frontière. Franck Curc, on a un peu le sentiment que les agrumes ont toujours fait partie du paysage méditerranéen. Or, on va voir avec vous que ce n'est pas tout à fait le cas. À quand remonte exactement l'aventure des agrumes en Méditerranée, leur arrivée?
Alors, officiellement, la première arrivée d'un agrume en Méditerranée, c'est 300 avant Jésus-Christ. C'est le cédrat.
Ah, quand même.
Qui serait officiellement arrivé en Méditerranée, qui ensuite a été, d'ailleurs, a fait le tour de la Méditerranée en suivant les populations juives qui l'utilisaient dans des fêtes traditionnelles comme la fête des tabernacles ou le Sukkot ou la fête des cabanes. Mm-hmm. Et ce cédrat s'est répandu dans tout le bassin méditerranéen, notamment sur la côte d'Azur également, jusqu'en Corse, en fait, où il est arrivé également. Et d'autres agrumes sont arrivés, mais un peu plus tard. Par exemple, après le cédrat, l'agrume qui est arrivée en Méditerranée, toujours d'Asie et Asie du Sud-Est, hein, puisque le bassin originel des agrumes, c'est quand même l'Asie du Sud-Est, pour les agrumes asiatiques, et l'Australie pour les agrumes océaniens. Donc le deuxième agrume qui arrive en Méditerranée, ça serait la bigarade, l'oranger amer, qui arrive au 10e, 11e, 12e siècle, tout le monde n'est pas d'accord. Et ces agrumes qui arrivent, ils surprennent tout le monde par leur parfum, leur beauté, leur couleur. Et ça a tellement plu que finalement, on a commencé à les cultiver en Méditerranée, on en a fait arriver d'autres, et la Méditerranée même est devenue un bassin de diversification secondaire, ce qui signifie qu'en fait, en Méditerranée, de nouveaux agrumes sont nés du mariage de ces premiers agrumes qui sont arrivés. Et notamment, on peut parler du citron, puisque on va attaquer sur le citron, et on va parler du citron de Menton, puisque on est dans la zone. Le citron, c'est un hybride naturel. Un croisement naturel entre le cédrat et la bigarade, qui sont ces deux premiers agrumes qui arrivent en Méditerranée. Donc le citron, aujourd'hui, lui, c'est le symbole de la Méditerranée, mais on pense vraiment qu'il est né sur place, bon, un peu à l'est, mais en Méditerranée. Et en effet, on le retrouve dans toute la cuisine méditerranéenne, de l'Afrique du Nord à l'Europe du Sud.
Donc, le bassin méditerranéen, si je vous suis, terre d'accueil des agrumes, mais également terre de brassage, terre de métissage.
Tout à fait.
On va voir que la vie sexuelle des agrumes est carrément débridée. Et c'est également un tremplin pour d'autres agrumes qui se sont exportés dans d'autres régions du monde. Hein.
Oui, puisque après s'être installé en Méditerranée, les agrumes vont coloniser tout le continent nord et sud américain à partir de l'Europe. D'ailleurs, les premiers agrumes qui arrivent en Amérique, c'est dans les Caraïbes, via le second voyage de Christophe Colomb en 1493.
Je pense également à d'autres agrumes qui sont nés dans d'autres aires géographiques et qui sont venus un peu plus tard s'acclimater également en Méditerranée, comme
le pomelo, par exemple. Le pomelo, il naît justement de ces premiers agrumes qui arrivent en Amérique et dans les Caraïbes. L'orange est le vrai pamplemousse, ce gros fruit à peau très épaisse, venu d'Asie, mais qui arrive dans les Caraïbes. Et du mariage entre le vrai pamplemousse et l'orange, naît le pomelo, qui est découvert et sélectionné par les Américains dans les Caraïbes. Ils l'amènent en Floride, ils font des travaux de sélection, de création variétale, et on arrive à des pomelos d'abord jaunes, très amers, puis roses, très sucrés, et ils reviennent en Méditerranée, où là, ils trouvent finalement un lieu de développement intéressant, et on arrive jusqu'à aujourd'hui avec le fameux pomelo de Corse, avec une indication géographique protégée, pomelo de Corse.
Et enfin, la Méditerranée, terre de naissance plus récente de certains agrumes. Vous évoquez l'île de Beauté que vous connaissez par cœur, hein, puisque vous travaillez en active collaboration avec l'INRAE Sierra de San Giuliano, une station d'ailleurs agrumicole qui a une réputation mondiale en termes de recherche.
Oui, alors, en plus, je suis né en Corse, donc c'est mon
île. Ah,
c'est mon île natale.
D'une maman calabraise, je crois.
Oui.
Vous êtes un vrai méditerranéen.
Oh, complètement. Un mélange méditerranéen. Et donc, du coup, oui, en Corse, on connaît bien la clémentine, notamment. Et la clémentine, elle est née en Méditerranée. Alors, pas en Corse, elle est née en Algérie, à Messirguine, hein, le fameux père Clément.
Près de Oran.
Oui. Vingtaine de kilomètres d'Oran en Algérie. Et ce père Clément découvre ce nouveau fruit qui a un peu été sélectionné par les enfants, en fait, hein, qui découvre cet arbre un peu différent. Il fait venir un professeur qui écrit un article en 1902. Qui décrit pour la première fois la clémentine. Dans son article, il dit « ça remplacera jamais la mandarine ». Et en fait, on s'est rendu compte aujourd'hui qu'il s'était trompé. Et ça a un tel succès que dès 1925, on plante en Corse le premier clémentinier sur la plaine orientale, à Figaretto. Et c'est M. Don Philippe Simidei qui est historiquement la première personne qui plante des clémentiniers en Corse. Et aujourd'hui, ce clémentinier en Corse, il s'est tellement plu qu'on réussit à le cultiver d'une telle manière qu'on a un produit légèrement différent des autres clémentines du bassin méditerranéen. On a une indication géographique protégée clémentine de Corse.
Depuis 2007.
Et c'est aujourd'hui une production agricole qui permet à des gens à vivre sur leur territoire et gagner leur vie en faisant de l'agriculture.
Et c'est une formidable success story. Ouais.
Et il faut le noter parce que malheureusement en France, tout le monde ne vit pas de son travail agricole.
Clémentine, mandarine, la clémentine est le résultat d'une hybridation.
Exactement, la clémentine est née en Algérie d'une hybridation naturelle entre la mandarine commune que l'on connaît, enfin, que certaines personnes connaissent, très parfumée, vingtaine de pépins dedans, et croisement avec l'orange douce. Et ce croisement, donc ces deux fruits chinois qui se sont installés en Algérie ont donné naissance à la clémentine. Clémentine qui aujourd'hui est un produit phare de la Corse, un produit identitaire corse. Ben, voilà, il est né en Algérie de parents chinois.
Elles sont splendides, toutes ces histoires de famille au sein de cette grande communauté des agrumes. C'est prodigieux. Mauro Colagreco, vous êtes installé en 2006 au Mirazur, cette espèce de balcon suspendu sur la mer. On a encore eu l'occasion de s'en apercevoir il y a quelques jours avec toute l'équipe. Vous nous avez fait visiter vos jardins. C'est un véritable laboratoire à ciel ouvert avec 5 hectares. Précisons quand même que vous êtes l'un des chefs les plus connus au monde. En 2019, très grande année, millésime que vous n'oublierez jamais dans votre carrière puisque 3 étoiles au guide Michelin quand même. Et ouais, le titre de meilleur restaurant du monde dans le fameux classement des World 50 Best.
Oui. C'est comme ça, 2019, c'était une millésime pour nous inoubliable.
Et j'imagine que vous leur devez un peu quand même de votre succès à ces agrumes que vous dorlotez dans vos restanques qui descendent vers la mer.
Évidemment, quand je suis arrivé à Menton, j'ai eu la chance de commencer à travailler avec ces petits jardins, mais avec beaucoup d'agrumes, beaucoup de variétés. Déjà, il y avait déjà une dizaine de variétés. Et à Menton, on a ces collections d'agrumes au jardin de Carnolès, qui a 130 variétés d'agrumes, un jardin tout seul. Donc c'est une richesse, une diversité magnifique des goûts, des saveurs, des textures. Et on a bien pris le temps et l'avantage d'avoir tout ça pour développer des menus autour des agrumes magnifiques.
Et vous êtes arrivé avec Luca, qui travaille avec vous. Il est d'origine italienne.
Oui, Luca, il est un de nos sous-chefs. Et aujourd'hui, il est venu m'accompagner pour nous préparer quelques surprises aussi.
Luca Adobatti. Et il a préparé cette surprise qui a carrément déboulé dans le studio de France Bleu Azur. Des vrais citrons dans un panier avec de fabuleuses feuilles de citronnier. De quoi s'agit-il? C'est une première recette mitonnée par Mauro Colagreco.
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on a ces citrons qui sont déjà d'une taille conséquente, qu'on va vider, on va utiliser la chair pour les plats lui-même et pour du jus. Et à l'intérieur, on va utiliser la coquille pour les citrons lui-même.
Donc c'est un contenant, c'est ça qui est extraordinaire.
C'est un contenant,
les
voilà.
Les citrons sont en train de circuler autour
voilà,
du plateau.
Il y a une petite granité qu'on fait avec les jus et des fruits de mer. Et moi j'adore, j'affectionne Gambero rosso italien qui est sucré et dans le chapeau du citron, mais on met cette crème citronnée au base des mascarpone.
Oh là là.
Donc on joue vraiment sur les textures du citron avec la granité, cette crème qui est très gourmande, donc pour compenser l'agressivité du jus de citron.
Commentaire autour de ce plateau, Franck Kurk.
Excusez-moi, j'ai la bouche pleine. C'est exceptionnel. Exactement, c'est cet équilibre acidité, le gras de la crème, le sucre, un
peu. La salinité aussi.
La première chose qu'on a en bouche, c'est ça. C'est le goût de la crevette, quoi. On a d'abord le goût de la crevette. Alors qu'il y a plein de choses et paf.
Alors quelque chose qui m'impressionne toujours, qui m'a impressionné, c'est cette salinité qu'on trouve dans les fruits et les légumes ici en Côte d'Azur par cette approche de la Méditerranée qui est exceptionnelle. Donc,
et la douceur, parce qu'il y a de la vivacité, de l'acidité évidemment dans ce citron, mais il est quand même réputé aussi pour sa douceur, ce fameux citron de Menton qui a trouvé dans les environs et les hauteurs de Menton un terroir exceptionnel, Franck Kurk.
Oui, c'est un mot important, terroir, parce qu'en fait le citron de Menton, c'est pas une variété. C'est un ensemble de variétés spécifiques.
Plusieurs variétés qui cohabitent dans cette IGP.
Plusieurs variétés qui ressemblent quand même toutes à un citron jaune, mais on peut cultiver 3 ou 4 variétés. Mais citron de Menton, c'est parce qu'il est cultivé à Menton ou dans l'aire géographique de Menton. C'est pas que la commune de Menton. Il y a 4 ou 5 communes qui ont droit à cette appellation autour de Menton. Et c'est ce terroir qui fait qu'on va avoir ce fruit-là. Un terroir, c'est un sol, un climat, une plante et un savoir-faire. C'est-à-dire que c'est la manière dont on le cultive aussi qui fait que le citron de Menton est un citron de Menton. Donc quand les gens disent « Ah, j'aimerais avoir un citron de Menton dans mon jardin à Bastia », ben non, vous aurez du citron de Corse, vous aurez du citron de Toulouse, citron de Bordeaux si vous voulez, mais le citron de Menton, vous pouvez l'avoir qu'à Menton.
Climat, c'est un climat qu'on peut qualifier de tropical ?
Alors il y a des zones à Menton, alors déjà Menton c'est un microclimat, et dans Menton il y a d'autres micro-microclimats dans une zone pratiquement tropicale, avec des bananiers, avec des plantes exotiques qui peuvent se développer incroyablement.
Oui, mais le jardin de votre maison personnelle, que vous avez converti quand même en jardin vivrier pour alimenter votre restaurant, le Mirazur Maroc Olagrico, on y a fait un tour en équipe, on a halluciné, comme on dit, des régimes de bananes, des manguiers, des papayers, des fruits de la passion.
Oui, 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 c'est impressionnant. Et justement, c'est un de ces microclimats dans un autre microclimat. C'est cet quartier de Garavan qui est protégé par ces rochers immenses qui maintient la chaleur le soir, qui dissipe la chaleur le soir et qui fait ces climats vraiment subtropical.
Mais qui génère aussi une certaine humidité, non ?
Oui, 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 c'est maintien humide justement par la richesse de la flore et il maintient l'humidité.
Justine, je vous ai vu très très intéressée par cette recette de citron. Vous avez plongé la cuillère à plusieurs reprises dans ce citron qui sert de contenant.
C'est vraiment incroyable. Enfin, en fait, ce que je trouve fou, c'est que le granité de citron, il fait le lien entre tout ce qu'il y a dans le citron et on a l'impression d'avoir vraiment l'essence du fruit. Ça explose sur la pureté du citron. On le découvre presque. Donc, c'est incroyable.
Granité de citron avec donc Gambéry Rossi du golfe de Gênes, j'imagine.
Oui, tout à fait. Son pêché en face du restaurant, pratiquement. Mm-hmm. Et des coques, voilà. Le coquillage.
Pas du tout de légumes, hein, juste des fruits de mer. Et un fruit. Waouh, absolument extraordinaire.
On va déguster. Sur France Inter.
Le citron de Menton et le citron dans l'art. On commence par une petite devinette, Elvira Masson.
C'est un tableau et son peintre que je vous demande de trouver.
Oui.
C'est un simple agrume entier, disposé sur une assiette, en étain selon certains historiens de l'art, en porcelaine japonaise selon d'autres, dont les bords latéraux sont coupés par le cadre du tableau.
Ah.
Le fond est neutre, c'est une toile de petite taille. Rien n'indique si la nature morte a pour cadre une cuisine, une salle à manger ou un restaurant. Une source de lumière à l'extérieur de l'image éclaire le fruit de face.
Mmh.
Il est saisi en gros plan et en léger surplomb. Il est traversé par un point clair en son centre alors que les teintes autour sont dégradées. L'historienne de l'art Françoise Cachin y voit une harmonie de gris et de jaune. Toile de 1880. Elle est l'œuvre d'un peintre français. De qui s'agit-il ?
Ah, 80, ben ça doit être un impressionniste, non ?
Ouais.
C'est Monet.
Non, pas loin, à une lettre près.
Manet.
Exactement, c'est Édouard Manet,
oui.
Et c'est le tableau qui s'appelle simplement Le Citron. Une petite reproduction figure là.
Magnifique.
C'est un tableau magnifique que le musée d'Orsay vient de prêter à la Villa Médicis à Rome pour quelques mois, dans le cadre de la célébration des 150 ans de l'impressionnisme et qui est l'occasion, ce prêt, de la résidence de la philosophe Vinciane Desprez à la Villa. Elle travaille en ce moment donc sur le citron de Manet et sa présence magique et silencieuse à suivre donc. Le citron de Manet qui se retrouve finalement dans un habitat qui lui est presque naturel puisque le destin des Médicis est très lié aux agrumes. Les oranges, citronniers, bigaradiers et cédras abondaient dans le vaste jardin du domaine acquis en 1576 par Ferdinand de Médicis. Les agrumes approvisionnaient sa table, tandis que les fleurs et leurs écorces pouvaient être confites, marinées ou encore transformées en huile parfumée et distillées dans le palais. Dans un autre palais des Médicis, du côté de Florence, dans la campagne toscane, Villa di Castello, se trouve un tableau impressionnant commandé en 1715 au peintre Bartolomeo Bimbi. J'ai un post-it jaune là avec écrit Bimbi dessus, François Régis, vous pouvez m'aider pour le montrer, qui représente sur 2 mètres de large une profusion de citrons de toutes formes.
Impressionnant.
Dans toute leur irrégularité, des citrons bosselés, grumeleux, destinés à rappeler la richesse des jardins de ce palais et de ce qui fut alors la plus grande collection d'agrumes en Europe. La reproduction de ce tableau figure dans ce livre extraordinaire que j'ai entre les mains, enfin plutôt que vous avez entre les mains, François Régis, Lemon, en anglais seulement pour l'instant, un livre réalisé par l'épatant magazine culinaro-culturel britannique The Gourmand, publié par les éditions Taschen, un livre passionnant, superbement illustré, comme vous pouvez le constater, composé de recettes et d'histoires avec un petit et un grand H, qui nous entraîne dans une foule de récits. On y apprend notamment comment le commerce des agrumes en Sicile a explosé au moment où les marines britanniques et françaises en avaient le plus besoin pour lutter contre le scorbut qui minait leurs équipages, et le lien que ceci a eu ultérieurement avec l'organisation et l'enrichissement de Cosa Nostra, la mafia sicilienne. On y trouve pêle-mêle un cours de dessin botanique, une histoire de la meringue cruciale pour les amateurs de tarte au citron meringuée, des pages magnifiquement illustrées sur la place qu'occupe le citron dans la peinture flamande et espagnole au XVIIe siècle, notamment chez Cotan et ses superbes bodegones, un chapitre consacré au citron chez Matisse. Tiens, tiens, certains citrons de Matisse font partie du fond du superbe musée Matisse de Nice. Enfin, pas ces temps-ci, parce que les Matisse ont été prêtés à un musée japonais. On y lit... Lemon Posset, bah oui, une recette que j'adore. Ouais. On y lit aussi l'histoire de la création du mythique presse-agrumes, le Juicy Salive de Philippe Stark.
De Philippe Stark,
exactement.
Qui a une forme un peu d'extraterrestre, enfin de soucoupe.
Dans les années 80, lors d'un déjeuner en solitaire sur l'île de Capraia en Italie, avec son dessin d'origine griffonné sur la nappe en papier du restaurant, jusqu'à un chapitre amusant intitulé « Sous la ceinture, l'histoire juteuse des citrons dans la pop musique, avec le sens caché de la chanson de Lemon Song de Led Zeppelin et celle de The Lemon Tree de Peter, Paul and Mary. »
Évidemment.
Et puis bien sûr, des recettes, une soixantaine, salées, sucrées, le Lemon Posset, vous l'avez dit, François-Régis, des cocktails bien sûr, des foie de veau grémolata, un avgo lemono grec, un riz au citron pulao, un superbe gâteau suédois fondant, j'ai pas pu résister, citron Claude Croca, un gâteau citron polenta, ou polente, comme on dit ici. Toutes ces recettes font très envie, des recettes justes, simples, parfaites, qui mettent en joie. Alors la joie justement, et l'allégresse, parfois aussi la tristesse et les regrets que convoquent les citrons chez les écrivains et écrivaines, font l'objet de belles pages, d'Andersen à Rilke en passant par Raymond Carver. Virginia Woolf, en visite en Espagne pour la première fois en 1905, se plaint ainsi dans une lettre à une amie. « Je n'en reviens pas que nous ayons à vivre en Angleterre, alors que nous pourrions savourer le bonheur de chaque instant, assis sur un balcon surplombant des citronniers et des orangers et leur palette de couleurs changeant au fil du jour. » Et puis attends, je termine par le commencement. Il y a une très belle et riche introduction de Jennifer Higgy, critique d'art australienne, qui conclut ainsi son passionnant propos. Les citrons sont des symboles, des signes, des porteurs de sens et de métaphores, de petites cathédrales, le fruit dont sont faits les rêves.
Bon, autant dire que vous avez eu un immense coup de cœur pour Lemon aux éditions Tachel, en espérant une traduction en français prochaine.
Vraiment, oui, mais les textes sont faciles à lire, très accessibles.
Il y a une recette
même
de pastel limone qui me fait très envie. Franck Kurk, certaines études archéologiques avancent l'hypothèse d'une présence du citron du côté de Rome dans l'Antiquité et même à Pompéi, mais ça semble assez peu probable en fait.
Alors, c'est peu de pollen qui a été trouvé, c'est des pollens assez anciens, et il y a toujours cette confusion cédra-citron.
Et ben voilà.
Et donc, voilà, on est toujours dans le doute, mais le cédra, c'est sûr, il y était. Et après, le citron peut-être.
On va évoquer d'autres agrumes stars de Méditerranée et de saison dans un instant, d'autres superbes recettes de Mauro et un vin de Riviera avec Justine Knapp.
Où partait l'aurore dans ses bas gris, dans ses eaux bleues? Accroché à l'arbre, ma vie m'a prise. Je suis au fait, presque à ton bras. Deux pas pour le bal, trois sur le côté. Passer lentement sous le ciel qui change ses habits sans faire. Puis le reste en nous, ça tourne à travers temps. Pourquoi le jour m'empêche, un joli chien qui tôt matin me mord le bras, des yeux les parallèles, les suivre jusqu'au ciel. ça n'était qu'un doux rêve.
On va déguster sur la Côte d'Azur. Et on n'est pas là pour se dorer la pilule, mais pour voir les citrons et les agrumes pousser.
Sur France Inter, avec François-Régis Gaudry, on va déguster.
Beaucoup de réactions, chère Elvira, sur notre mail, on va déguster à radiofrance.com, mais également sur le bouton réagir depuis l'appli mobile de France Inter.
Et notamment Catherine Lotte à Valence qui nous rappelle une recette du regretté écrivain sicilien Andrea Camilleri qui propose dans un de ses livres un granité au citron comme Dieu le veut, entre guillemets, selon la règle du 1-2-4. Une dose de jus de citron, deux doses de sucre, quatre doses d'eau. Qu'est-ce qu'on fait? On mélange tout et on fait prendre au congélateur. Et on gratte régulièrement pour faire le granité à la maison.
Oui, oui, tout
comme
à
on fait quand on n'a pas de turbine.
C'est très simple. Oui. Alors, on fait jus de citron, sucre, un peu de sucre, ça dépend la recette qu'on veut réaliser. Et on le met au congélateur et au fur et à mesure, on gratte avec une fourchette.
On gratte combien de fois pendant combien de temps?
Alors, ça dépend le congélateur, ça dépend la fourchette, mais environ à plusieurs reprises, une heure à l'intervalle des 10 minutes.
D'accord.
Et je précise qu'on vous indique également, on est en train de mettre sur franceinter.fr à la page On va déguster deux recettes emblématiques de l'univers On va déguster. Il y a Lemon Posset, évidemment d'Elvira Masson. Vous nous en donnez une brève définition. Allez-vous nous la rappeler comme ça?
C'est une crème prise au citron, sans œuf, sans gélatine. Mm-hmm. On met 80 grammes de sucre dans 40 centilitres de crème qu'on fait porter à ébullition, légère ébullition.
Crème fleurette.
Crème fleurette pas allégée, enfin épaisse, entière, quoi. On mélange régulièrement le temps que le sucre soit dissous. Puis on verse en filet le jus de deux citrons, à peu près, ça fait 7 centilitres.
Elle la connaît par cœur.
Et ensuite, oui, hein. Le citron fait prendre un peu, fait coaguler ce mélange crème-sucre. on mélange encore pendant 5-7 minutes et on fait prendre au froid pendant 3-4 heures.
Wow.
C'est vraiment bon. Et on râpe un petit peu de zeste dessus et on émiette un petit peu de sablé, shortbread, ce qu'on veut, meringue.
Parce que comme on le disait, Marocola Greco, ce citron a effectivement le talent et le pouvoir de coaguler, de faire cailler en fait un produit laitier.
Tout à fait.
C'est ce qui se passe dans le
citron. Voilà, le pH du jus de citron fait que elle puisse cailler la crème ou le lait d'ailleurs. Et c'est ce qui se passe effectivement avec la recette du mascarpone, qui est de la crème entière avec du jus de citron qu'on laisse après goûter pendant une nuit au frigo.
Il fait beaucoup de miracles, ce citron, et il fait des miracles aussi dans une recette, mais alors vous n'allez pas me la demander, je ne connais pas les proportions par cœur. Le fameux cake de Martine.
Ah oui, il est exceptionnel.
C'est
ce
un cake au citron extraordinaire, à condition d'avoir de bons citrons à sa disposition. C'est sur franceinter.fr, à la page On va déguster, enfin, quand Fabrice Ribaud, parce que ce n'était pas tout à fait prévu, donc quand Fabrice aura le temps de la mettre, mais ça va se faire très rapidement. Franck Kurk, vous êtes notre grand spécialiste de la génétique des agrumes, autant vous dire que on a affaire à une encyclopédie sur pattes des agrumes. Certains résume l'arbre généalogique des agrumes à une famille très très nombreuse qui résulterait d'une partouze géante.
Alors, je vais pas utiliser les mêmes termes, mais...
Monsieur est scientifique.
Mais les agrumes ont la capacité de se croiser, alors effectivement, sexuellement, donc naturellement, hein, bon, chez les plantes, c'est l'abeille qui fait le travail, hein, le pollen, le pistil, les étamines. Et du coup, oui, en effet, on a en gros dans les agrumes cultivés, on a quatre ancêtres qui se sont croisés pour donner un certain nombre de variétés, qui se recroisent pour donner un certain nombre de variétés. Pour parler d'un agrume méditerranéen, par exemple, la bergamote. La bergamote est un hybride naturel entre le citron jaune et la bigarade, sachant que la bigarade est la maman du citron jaune.
Là, vous êtes en train de parler de relations même incestueuses.
Sauf que ça ne s'est pas passé sur le même arbre, c'est pas les mêmes individus. Mais en effet, c'est le groupe génétique de la bigarade qui s'est croisé avec le citron jaune pour donner une bergamote. Donc oui, quand on dessine un arbre généalogique, on a l'impression que c'est un peu incestueux, alors qu'en fait non, ce sont bien des arbres différents, des individus différents, mais on retrouve des génétiques communes. Donc oui, en effet, il y a de gros mélanges, et puis tout le monde peut créer de nouvelles variétés d'agrumes. Si vous trouvez des pépins dans une clémentine, par exemple, et que vous semez un pépin de clémentine, à chaque pépin de clémentine, vous aurez une nouvelle variété hybride entre clémentine et l'arbre qui a fourni le pollen, qui a donné le pépin.
Incroyable, c'est ce qui fait que cette famille est très très nombreuse, parfaitement complexe et passionnante aussi pour vous autres scientifiques.
Alors,
sans parler des chefs.
La création est infinie puisqu'on peut les recroiser à l'infini. Mm-hmm. Et puis nous, en génétique, effectivement, à chaque fois qu'on ouvre une porte derrière, il y a 20 portes fermées pour continuer à travailler.
Petit cours d'anatomie d'un agrume, il y a un jargon, il y a des termes spécifiques. Si vous prenez l'un des agrumes dans cet abondant panier que nous a apporté Mauro Colagrico avec des fruits issus de son verger, vous avez un couteau. Racontez-nous un peu ce qu'ont en commun quand même tous ces agrumes dans leur diversité. Il y a quand même des caractéristiques anatomiques.
Alors effectivement, un agrume d'abord, ça a des glandes à huile essentielle sur le zeste, la feuille et la fleur. Ces glandes à huile essentielle, on les connaît. Quand on épluche une mandarine ou une clémentine, on a ce parfum qui se dégage. Et ce parfum, il n'est pas issu du jus, il est bien issu de la peau et de ces petits sacs de glandes à huile essentielle. Mais il y a d'autres plantes qui ont des glandes à huile essentielle. La caractéristique propre des agrumes, c'est l'organisation en quartiers à l'intérieur. Et ça, en revanche, c'est vraiment unique dans le monde des plantes et des fruits. Alors, il y a le mangoustan qui a une sorte de quartier, mais c'est pas exactement la même organisation. Là, on a vraiment des quartiers avec une membrane qui tient chaque quartier. Et à l'intérieur de chaque quartier, vous avez des petits sacs à jus qui s'appellent également, et j'adore cette appellation, des poils succulents.
Mmh. Magnifique. Et parlez-nous aussi de la peau, de l'épiderme.
Alors, là, il se trouve que vous avez l'épiderme. Et
là,
donc
vous êtes en train d'éplucher quel agrume ?
Alors là, je suis en train d'éplucher une mandarine, des mandarines communes, qui a un parfum exceptionnel. Je vous fais passer la peau, vous verrez, c'est pas le parfum de la clémentine.
On n'entre plus tellement des mandarines.
Non, effectivement, c'est assez rare, ouais. Parce qu'elles mûrissent d'abord un peu après les fêtes, donc elles ont moins de succès que la clémentine, et puis surtout, elles sont généralement pleines de pépins. Oui. Donc oui, si vous mangez chez le roi d'Angleterre et que vous devez cracher en permanence, c'est pas très sympa. Alors moi, il n'y a pas de problème, je ne mange pas chez lui. Mais donc vous avez le parfum, vous avez le zeste, avec ces huiles essentielles. Et alors après, il y a une petite polémique, c'est-à-dire que nous, en botanique, on n'utilise absolument pas le terme de ziste, c'est vraiment un des termes de cuisinier. Nous, on utilise le terme d'albédo. Albédo, ça rappelle l'alb, c'est le blanc, alba, des agrumes. Donc voilà, nous, le terme de ziste, on l'utilise pas vraiment.
C'est là où se loge en général une certaine amertume.
Alors c'est là où, notamment après cuisson, souvent, on dégage de l'amertume, c'est là qu'elle est présente. Mais bon, si on sait la gérer, c'est aussi, et là je vais repasser la parole au chef, cette amertume, quand on joue avec, ça peut être quand même quelque chose d'extraordinaire.
Alors, il y a certains agrumes qui sont albédo, justement, qui est presque sucré, hein, avant cuisson. Et on l'utilise. Moi, j'aime beaucoup utiliser la saveur amère. On dit que c'est la saveur de l'âge adulte. Et contrôler, mise à son juste valeur, c'est une saveur que j'adore et qui apporte énormément à la complexité d'un plat.
Mais l'agrume, vous l'utilisez évidemment dans son intégralité, de l'écorce jusqu'à la pulpe, en passant par l'albédo, parfois même les feuilles et les fleurs. C'est ça qui est extraordinaire.
Oui, tout à
fait. C'est un terrain de jeu formidable pour les chefs que vous êtes.
Énormément. Souvent, quand on parle des agrumes, on parle que du fruit, mais il y a les feuillages qui, selon les variétés, ça des huiles essentielles, justement, totalement différentes. Suivant, ils sont plus douces, moins agressifs, et on peut aromatiser dans une cuisson, et même les jeunes pousses, on peut les utiliser, on peut les manger crues. Et pareil pour les fleurs, on l'a vu avec ces taux de bigaradier, magnifique.
Un petit miracle débarque dans les studios de France Bleu Azur. Je vais demander à Elvira Masson, ma voisine de gauche, sous le soleil, il y a le soleil de la Côte d'Azur qui perce par les fenêtres, de nous décrire cette espèce de pièce de haute joaillerie que nous a préparé quand même Mauro dans des conditions externes à sa cuisine.
C'est comme une fleur qui se déploie. Il y a du jaune, du blanc translucide, du rosé, du orangé, plein de petites billes, des petites fleurs. Ces petites fleurs de quoi ? De thym, de sarriette, de petites fleurs de... Non ? Petites fleurs blanches, en plus.
De miellet.
Oh là là. Des petites billes d'agrumes,
Alors, les petites billes jaunes, c'est quoi? C'est du
alors,
citron caviar.
C'est un citron qu'on fait. C'est des petites billes qu'on fait nous-mêmes avec les jus de, des agrumes. Donc il y a de citron, des pamplemousses et des l'orange.
Mais c'est du lard.
Il y a du lard et de...
Parce qu'on prenait ça pour des pétales de calamar.
Alors, il y a les calamars et
vous avez l'illusion.
Mais c'est
voilà. C'est des petites tagliatelles de...
Qui fondent en bouche
qui sont
piquées par ces petites sphères d'agrumes. Oh là là, c'est...
Tout à fait, qui sont relevées justement avec ces petites billes d'agrumes. Et le lard, il va apporter ces gras qui j'aime autant dans un plat aussi. Hein.
Mais alors, le côté légèrement croquant du calamar, presque cru ou flashé ou cru?
Cru.
Avec le gras tout d'un coup, mais très profond, très umami du lard de Colonnata, c'est extraordinaire, Justine.
Et les deux, justement, le calamar et le lard, ils fondent progressivement en bouche et hop, les petites billes, comme le disait Elvira, qui viennent dynamiser. Et sur la fin, je trouve ça très agréable parce que les notes des agrumes, elles se mêlent avec le iodé et ça fait un mariage vraiment magnifique. Hein.
Vous avez goûté, Franck Kurk?
Alors oui, et je suis sans voix. C'est impressionnant. C'est aussi beaucoup bon, mais c'est, on a l'habitude de le dire. Mais là, l'aspect de fleurs était impressionnant. Magnifique. On avait vraiment l'impression de plonger dans une fleur, et puis après au goût moi je m'y attendais pas, je savais pas que c'était du calmar et vraiment ce côté iodé ce gras, ce côté animal marié aux agrumes, waouh.
Et ce bijou est à l'image du travail absolument extraordinaire que fait Mauro Colagreco aux cuisines du Mirazur, l'un des restaurants les plus célèbres du monde. On se bat pour y aller, d'autant qu'on a la vue sur vos jardins, sur la Méditerranée, la mer, votre jardin, avec une place très importante consacrée au végétal, eh bien, transpire dans vos assiettes.
Oui, c'est vrai qu'on a cet ancré sur la Méditerranée, sur le bassin de la paix. On dit le bassin juste en face du Méditerranée, du Mirassol, c'est le bassin de la paix. Et on a ces jardins qui ont fait un travail vraiment de régénération de la terre incroyable et qui fait justement que potentier les saveurs de nos fruits et nos légumes qui sont exceptionnels.
On va déguster sur France Inter.
Une surprise liquide de notre chroniqueuse vin Justine Knapp qui proviendrait d'une certaine Riviera. Bon, on va pas en dire plus. Ce qu'on peut dire en revanche, c'est que les agrumes et le vin partagent une particularité, Justine.
Oui, alors qu'est-ce que le vin et les agrumes ont en commun? Eh bien, la couleur hein, déjà, du jaune soleil, de l'orange, du rouge sang. Ensuite, on a des arômes, donc que ce soit dans le vin blanc, rosé, orange et même dans le vin rouge, on trouve des notes d'agrumes. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est que le vin, comme les agrumes, ont un même pouvoir, qui est le pouvoir de créer de l'aspérité en bouche quand ils ont été travaillés avec les peaux. Prenons l'agrume, prenons les agrumes quand ils sont cuisinés entiers, donc jus, pulpe et écorce, et bien c'est là qu'ils montrent toute leur complexité. Un exemple, une limonade toute simple, jus de citron, eau, sucre, les quartiers bio que vous avez pressés pour le jus, vous en mettez quelques-uns à infuser dans la boisson toute la nuit au frigo, et vous verrez que la citronnade va gagner en parfum, mais aussi en relief, en aspérité. Les peaux vont relever les autres goûts, et puis si on varie les agrumes, moi je trouve que c'est encore meilleur. Et même chose pour le raisin dans la petite cuisine de la cave. Les peaux des raisins qui macèrent, elles donnent au vin de la couleur, des goûts supplémentaires et un toucher de bouche. On a des tanins hein, dans les peaux, dans les pépins. Ce sont eux qui apportent cette sensation de douce rugosité sur la langue. Donc on les retrouve dans les vins rouges, les vins oranges, des vins forts en texture. Donc si je résume, dans ma limonade avec les écorces et dans mon jus de raisin avec les peaux, dans les deux, en plus de la pulpe sucrée et acide, on a quelque chose qui dépasse, qui accroche, qui amène une complexité dans la dégustation.
En fait, ce que l'on sent, ce que les peaux apportent, c'est, Justine, de l'amertume et de l'astringence.
Amertume,
ce côté un peu accrocheur.
Voilà, exactement. En fait, l'amertume, l'astringence, elle donne cette impression tactile en bouche. Dans la peau des raisins, dans la peau des agrumes, on a des polyphénols. Donc, c'est une grande famille omniprésente hein, dans le monde végétal. Beaucoup de polyphénols présentent de l'amertume ou contribuent à l'astringence. Alors, pourquoi? Parce que les plantes, pour se défendre et ne pas se faire grignoter par les herbivores, elles élaborent des substances défensives au goût dissuasif. Donc, notre rejet spontané de l'amertume et de l'astringence, il est naturel, il nous prévient d'un potentiel poison. Donc amertume, astringence, à doser avec subtilité, hein, on n'est pas tellement fait pour de grosses décharges. En cave, quand le raisin macère dans les cuves, mieux vaut y aller tout doux, hein, ne pas trop remuer sa casserole pour éviter d'extraire des tanins brusques. Ben sinon, ça donne en bouche une sensation désagréable, une sensation comme si on avait mâché une peau de raisin. Alors nous, là, on va goûter un vin où la peau laisse une trace discrète sur la langue.
On dit que les tanins sont fondus.
Oui, absolument. Un vin mystère. Un vin de la Riviera, où j'ai envie de dire... Un vin d'une Riviera, je sens le petit piège qui arrive.
Oui, il y a un petit piège. C'est effectivement un vin de la Riviera, mais la Riviera des Alpes, c'est le surnom de la région d'Aix-les-Bains pour son microclimat particulièrement doux grâce au lac du Bourget. Donc c'est l'un des plus grands lacs naturels de France et j'ai parfois l'impression d'arriver à la mer. Et en longeant ce lac vers le nord, eh bien on rejoint la Chautagne. C'est un coin méconnu de la Savoie où l'on fait du vin, notamment de jeunes installés, vignes bio, vin sans artifice. Je pense à Corentin Houillon, son Pinot Noir, sa Mondeuse, sa Jacquère, des vins délicieux qu'on a honnêtement tout le temps envie de déboucher. En moyenne 20-25 euros, hein, vraiment ne nous en privons pas. Et une ou deux parcelles plus loin, son ancien apprenti, Pierre Grosbon, premier millésime. C'est son vin que j'ai apporté, cépage Gamay et Mondeuse. Alors quand j'ai goûté cette bouteille, on était dans la cave et il y avait juste à côté le pressoir à cliquet. Donc c'est un petit pressoir qu'on active à la force des bras. Dur pour le corps, mais doux pour le vin, lent. Et en buvant le vin, on arrivait à visualiser ce temps long de la presse, les pots et même les rafles qui ont donné tout doucement leur note végétale, leur grain. Et puis ce vin, même après un an de barrique, il me donne toujours l'impression d'avoir été juste pressé. C'est vraiment un pur jus de fruits fermenté, un peu d'acidité volatile, mais surtout un jus désaltérant, une impression de facilité. On a le charnu sucré du raisin et le végétal. Fruit complet, hein, fruit complexe.
Ben voilà, fruit complexe, c'est bien dit.
Magnifique. Hein.
Ah oui, il y a de la matière et tout en délicatesse.
Donc, grand potentiel.
Exactement, très gros potentiel.
Franck, oui, et puis ça se marie bien avec tout ce que j'ai sur les doigts, là, de l'huile essentielle de mandarine, de l'eau de fleur d'oranger, et finalement, tout ce mélange-là fait que,
là, je pense que
ce vin a un autre goût, finalement.
Les parfums de On va déguster de France Inter vont imprégner les studios de France Bleu Côte d'Azur pour quelques semaines, ça c'est sûr. Allez, parlons d'un petit agrume, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est le... Pardon, Justine.
Oui, je voulais juste rajouter, où est-ce qu'on peut trouver cette bouteille? Voilà, quel est le prix? Une petite précision, c'est que c'est un premier millésime, hein, donc c'est un aperçu, un fil à tirer, premier essai pour Pierre. Les ajustements viendront sans doute avec les années, hein, vinifier et embouteiller comme il le fait, sans le filet de la chimie. Ça réclame de l'expérience. Trinxy, 15 euros au domaine. Plus de bouteilles à acheter directement cette année au domaine, mais on peut le goûter au restaurant ou grâce au caviste. Et puis on retrouvera tout ça sur la liste de... La liste sera sur le site de l'émission.
Merci beaucoup, Justine. Un agrume coupé en deux. On évoquait le pomelo tout à l'heure. Quelqu'un nous demande, et beaucoup d'auditeurs et d'auditrices nous demandent en fait, pourquoi le pomelo s'appelle parfois le pamplemousse? Et inversement, c'est pas les mêmes fruits, hein, ont un lien de parenté.
Complètement. Le mot pamplemousse, il est très ancien, très utilisé très anciennement en France, et ça désigne en réalité le Citrus maxima, qui est le gros fruits et qui vient d'Asie, une peau très épaisse, donc le vrai pamplemousse. C'est le pomelo qui est plus récent, qui est l'hybride entre ce pamplemousse et l'orange.
Voilà.
Et ce pomelo rose que l'on consomme aujourd'hui, c'est du pomelo, Citrus paradisi. Le problème, c'est que en anglais, le terme pomelo désigne le vrai pamplemousse.
Ah bah voilà.
Alors que le pomelo en anglais, c'est grapefruit, grapefruit. Et donc on confond un peu les deux et on essaie de se battre. Donc oui, il y a bien une différence entre pamplemousse et pomelo, mais globalement, apprécier les fruits et puis le vocabulaire, on passera après, quoi.
Quand on vous disait que les agrumes étaient un monde extrêmement complexe, un immense merci d'être venu nous voir, Mauro Colagreco, chef du Mirazur. On précise pas aussi que vous avez planté votre drapeau partout dans le monde. Vous êtes vraiment un grand ambassadeur de la haute cuisine française, argentine aussi par vos origines. Hein.
Oui, mais j'ai fait mes cours en France, donc j'ai fait la cuisine française.
Merci beaucoup, cher Mauro. Merci, Franck Kurk.
Merci à vous.
Si vous êtes passionné d'agrumes, on vous recommande aussi une excellente encyclopédie, Le Grand Livre des Agrumes d'Anne Etor aux éditions Flammarion. Chers auditeurs et chères auditrices, je vous donne deux rendez-vous pour la semaine prochaine. Vendredi 12 avril, nous enregistrons, on va déguster depuis le Festival du Livre de Paris au Grand Palais éphémère à 17h pour parler livre de gastronomie avec nos invités, nos chroniqueurs, nos chroniqueuses. Elvira, vous
entrez.
Venez nombreux assister à notre enregistrement le 12 avril à 17h. Et puis je m'adresse aux Bretons pour leur signaler que je vais monter sur scène. Oui, sur le théâtre, au Théâtre National de Lorient samedi prochain, le 13 avril à 18h, pour un genre de cabaret gourmand mitonné avec une partie de ma bande, avec plein de surprises. On va même faire la cuisine sur scène avec des bonnes choses à déguster. Mon escale à Lorient avec mes invités le samedi 13 avril à 18h au Théâtre National de Lorient. À dimanche prochain, si vous avez encore faim.